des prérequis qui nous ont permis, nous, de nous intéresser à ces soins développementaux. Je vais faire des petits rappels, simplement, que le mouvement est quand même le premier signe de vie dans l'utérus. C'est aussi le premier moyen d'expression de vie qui passe par le corps et les mouvements. Bien sûr, nous allons parler de prématuré. Donc, imaginez la situation que le bébé n'arrive pas comme ça à ses 40 semaines. Donc, il bouge, mais il ne va pas pouvoir continuer à bouger longtemps dans le liquide. Alors, in utero, la surface cutanée du bébé et ses organes de l'équilibre sont déjà sollicités. Ce n'est pas parce que quand il arrive qu'on va commencer à le solliciter. Il a déjà une expérience sensorielle in utero par le liquide amniotique, par les pressions de son propre corps sur les parois utérines, par les divers mouvements et déplacements de la mère, et par aussi la voie urinaire, puisqu'elle vibre sur le corps vocal et induit aussi un mouvement. Ce corps en mouvement fournit donc au bébé des informations déjà proprioceptives et vestibulaires sur le positionnement du corps dans l'espace, prenant ses origines bien sûr dans les récepteurs articulaires et musculaires de la peau. Il faut savoir qu'à la 7e semaine de gestation, ces récepteurs sont déjà en maturation et au 6e mois de grossesse, on a l'achèvement de la maturation déjà au niveau proprioceptif et tactile. Ça veut dire que ce sont des sens, les premiers sens à se mettre en place chez le bébé. Et puis, ça constitue bien sûr déjà cette expérience sensorielle motrice du bébé sur cette expérience spatiale du corps et positionnement, perception de mouvement. Bien sûr, les autres sens vont s'ajouter plus tardivement dans le développement du bébé in utero, dans l'ordre, on suivra après vers l'odorat, l'ouïe, et pour finir, plus proche du terme, vers la vision. Donc, ce sens est déjà très très important dans le premier temps du développement du bébé. Alors, ça fait pas si longtemps finalement qu'on porte intérêt, c'est une vingtaine d'années qu'on porte intérêt comme ça en Occident, à l'importance des sens, des approches, de sensibilisation autour de la femme enceinte se sont développées avec des méthodes diverses, mais on est encore dans des balbutiements autour de ça. Et la peau, il faut le rappeler, est l'organe du tact et du toucher, qui est donc un premier, des premiers sens à se développer, et son origine aussi embryonnaire, quand même, est la même que celle du système nerveux, ce qui est quand même important, vous allez voir après, sur les effets qu'on a sur le toucher par rapport à la peau. En outre, c'est un organe aussi vital, qui est l'organe le plus étendu de l'organisme, qui englobe le corps tout entier et qui réalise donc la surface de contact entre le corps humain et le milieu environnant, ça veut dire aussi un système de relations. Alors, aussi dans les prérequis autour de ce prématuré, non seulement on connaît mieux les sens, le développement de ses sens, on a aussi un autre accompagnement autour de la posture du prématuré qui se développe de plus en plus. Quand on a suivi à nous la consultation de nouveau-né et de nourrisson, on a pu voir l'intérêt de prendre en compte la position de couchage du nouveau-né sur son développement psychomoteur et les effets délétères de cette position de couchage, ce qui nous a amené et encouragé finalement à développer des dispositifs spécifiques de posture, prendre en compte cette posture fonctionnelle du nouveau-né, encore plus du nouveau-né prématuré qui lui est né avant terme. Et si nous appuyons sur des travaux déjà auprès du prématuré du docteur Premier qui a montré à quel point ne pas posturer un prématuré en plus à risque, à cerveau lésé, éventuellement, pourra estropier son devenir. Et là, tout l'intérêt de posturer notamment le corps, notamment les hanches, pour ces nouveau-nés prématurés. Nous avons porté un intérêt aussi pour le nouveau-né à terme, par rapport à la position, je n'ai pas le temps de le développer là, mais voyons les effets sur le nouveau-né à terme, nous sommes retournés aussi vers le nouveau-né prématuré, avec un intérêt d'une posture globale. Nous avons montré à quel point la posture, la prévention posturale est importante pour le devenir psychomoteur du nouveau-né, déjà à la sortie du centre néonatal, favorisant l'émergence d'une motricité tout à fait normale. Alors, vous avez des sites comme sur psynem.org pour retrouver des informations et sur bébé-coconut.com. Je vais introduire les dispositifs. Vous trouverez aussi nos dispositifs sur le centre Lecieur tout à l'heure de ce que je vous montrerai. Voilà, simplement pour illustrer, le nouveau-né, si on ne le posture pas, le nouveau-né prématuré, il est dans cette position de lit où il y a une rotation externe des membres, supérieure et inférieure, même rotation de la tête, parce que cet enfant ne peut pas garder la tête au zénith, c'est valable pour un nouveau-né, comme dit un nouveau-né à terme, il finit par faire une rotation, et vous voyez d'ailleurs de plus en plus de têtes plates, de plages de céphalie sur les bébés, parce qu'ils sont maintenant un peu plus sur le dos. Pour ce qui est du prématuré, la maturation ne permet pas au fœtus de réagir encore pour contrebalancer cette force de la gravité sur le poids de, sur son corps, sur l'ensemble de son corps. Alors voilà, par les corbeaux, nous avons donc un entourage autour de bébé qui permet de mettre les membres d'une façon centripète, de faire, prendre des contacts avec les membres supérieurs, de mettre en l'axe les membres inférieurs par rapport aux axes des hanches, de maintenir donc cet enfant dans une posture fonctionnelle qui va lui permettre de se développer, de connaître son corps et d'approcher aussi l'environnement. On peut tourner le coconou et avoir un bébé qui est sur le côté, qui va pouvoir pédaler normalement, qui va pouvoir finalement bouger normalement tout en étant maintenu comme dans des parois finalement inutéraux aussi, où il y a le contact, il va pouvoir rebondir sur ce contact et en même temps se sentir contenu dans une position qui le soutient et le bébé recherche ce type de position tout à fait rassurante qui le calme, qui permet d'ailleurs de détacher les bébés prématurés puisqu'ils sont beaucoup plus calmes quand ils sont comme ça entourés. Donc c'est tout à fait intéressant comme mesure de prévention à la fois sur le plan développemental global, orthopédique et sur le plan de la relation aussi. Bien sûr, nous avons développé des comparaisons de travaux actuellement sur les postures comme ça des bébés. Alors si je rentre dans ce programme PMSE que nous avons développé, qui tiendront de la posture, des manipulations pour le bébé, du portage, des sollicitations et de l'environnement, l'aménagement de l'environnement, vous trouverez dans l'ouvrage actuellement des détails. Ici, j'aborderai plus spécifiquement les sollicitations sensorimotrices, le toucher sensorimotonique-provoqueur que nous avons développé à travers notre étude. Et pour montrer que cette méthode utilise cinq sens, les cinq sens en multimodalité, c'est-à-dire c'est pas un à la fois, c'est l'ensemble des sens qu'on va dessus, avec une méthode particulière sur le parcours du corps de l'enfant. Ce n'est pas, on ne touche pas n'importe comment au hasard. Il y a un respect de la maturation, de l'organisation de la maturation céphalo-caudale qui part de la tête. De proximal vers le distal, hein, et puis la maturation de la tête vers le reste du corps. Donc, ce respect est important pour aider l'enfant à se développer, à se déployer et avoir une organisation psychomotrice tout à fait optimale. Alors, on sollicite aussi, dans la méthode de toucher, contrairement à un massage plus classique, la neuromotricité et la sensorimotricité de l'enfant. Il n'est pas passif. Pas qu'un toucher passif, il participe dans les changements de position à un retournement actif. Il est déjà capable de le faire, in utero, il est déjà capable de se retourner, on sollicite par la proprioception de la participation de l'enfant. Alors bien sûr, tout ça en dehors de cette neuromotricité, de ce déploiement sensorimoteur, il est tout à fait intéressant de regarder du côté des interactions, notamment quand ce sont les parents qui participent à cette méthode. Il y a quand même tout un intérêt de langage préverbal, le langage du corps. Et puis, du côté du parent, ça favorise pour la mère l'investissement de cet enfant réel, hein, qui est un prématuré, qui va permettre de mettre en marche le lien, en tout cas mère-enfant, qui est important. J'insiste sur le prématuré, c'est pas simple, cet enfant est à risque souvent, c'est pas simple de s'approcher à cet enfant réel en face qui est un prématuré, donc d'où l'intérêt d'avoir des méthodes aussi d'approche pour accompagner cet attachement, ce premier attachement. Ça permet de retrouver peau à peau entre les parents, en transposant ce contact aussi qui était très étroit de la grossesse pour la mère, et ça offre l'occasion donc d'une étroite relation privilégiée entre l'enfant et les parents, dans une gestuelle, en s'apprivoisant bien sûr mutuellement. Donc il y a une possibilité d'interaction et de communication plus confiante devant ce bébé, qui est différente que simplement le regarder, le toucher du bout des doigts, mais participer, vous allez voir, de façon plus globale à sa motricité, et découvrir ce bébé en mouvement, ça change tout à fait le regard des parents, je vais vous l'illustrer par une petite projection. Ça permet aussi d'apaiser la crainte de lui faire mal, car lorsque l'on accompagne ce mouvement sur le corps du bébé, au lieu de toucher à peine le bébé, parce qu'on a peur de le casser, il est si fragile, si petit, hein, le bébé prématuré, vous vous imaginez qu'on a de plus en plus aussi de grands prématurés, donc des petits membres, et on n'ose pas les toucher parce qu'on a peur de les casser. Donc le fait de cette approche, ça permet de prendre confiance dans sa manipulation, dans son geste, et donc de donner un sentiment de confiance aux parents, de l'induire en tout cas, et puis de déculpabiliser aussi par rapport au devenir de cet enfant que l'on voit en utilité spontanée de façon tout à fait intéressante. Donc c'est aussi un cas d'élaboration de mots qui peuvent sortir autour de cette approche, qui permettront d'être repris par ailleurs, sur un parent qui peut être très angoissé et qui va se déverser en ayant plus confiance par rapport à cet enfant. Donc, l'exagération est tout à fait intéressante pour désangoisser et par rapport aussi à cette séparation qu'entraîne la prématurité et le désordre. Alors, la récolte se fait sur un matelas d'eau. En plus de ces sensorialités qui vont être sollicitées, on utilise un matelas d'eau qui va permettre d'avoir ce sens vestibulaire, hein, le sens de l'équilibre de l'oreille interne, le vestibule, et ça permettra de le solliciter. La plupart du temps, le massage est fait sur une table, on sollicite le toucher, le regard, la vision, l'audition, mais le vestibulaire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un premier sens aussi à se développer, finalement, n'est pas sollicité en permanence alors que l'enfant le reconnaît bien, puisque c'est un des premiers sens à se mettre en place. C'est tout à fait intéressant d'utiliser comme ça en multimodalité, ce qui va renforcer aussi les réponses de l'enfant sur le plan sensorimoteur. Hein, donc ça prend tout un sens, ce toucher, touchant un double sens finalement, alors que chaque sens est touché, je vous les ai énumérés, unissant celui qui est touché à celui qui touche, ça met en scène toute cette motricité de l'enfant, la posture, le tact, l'affectivité parentale, et ça procure bien sûr au bébé un bien-être, sollicite aussi le désir de se mouvoir, vous allez le voir, et source d'une bonne organisation corporelle et psychique, c'est tout l'intérêt que l'on souhaite dans cette approche. Donc là, c'est le papa qui participe. Et vous allez voir comment cet enfant est sensible à ce contact, à ce toucher. Va se déployer. Et même l'enfant, comment l'enfant équilibre, va réagir parce qu'il est tout à fait capable aussi de réagir. Alors, pourtant, c'est un papa qui est assez grand, qui a de grandes mains, qui a pris confiance en participe. Alors, ça change aussi de la couveuse. Hein. Le bébé est tout le temps maintenu dans la couveuse. C'est un moment aussi important d'échange avec le parent. Si la maman ne peut pas bouger au début, le papa fait le relais, il va raconter, vous faisiez ça. C'est tout à fait intéressant aussi comme pour montrer un petit peu le développement de cet enfant. Et simplement, on ne va pas le voir souvent que médicalisé dans la couveuse. Alors, vous voyez un petit peu cette ouverture qu'il y a de déploiement, d'ouverture même des mains. Que cette motricité est bien en marche, hein, que ça rassure le parent de le voir comme ça, puisqu'il se donne une autre image, et tout à fait de normalité en fait d'un enfant. Hein. Il oublie tout à fait que c'est un enfant prématuré, et du coup, eh bien, ils investissent un enfant qui a tout à fait tout ce qu'il faut pour démarrer sur le plan moteur. Regardez les réactions vives par rapport au matelas. Vous voyez comment il se rééquilibre. Voilà, la participation. Vous voyez comment l'enfant peut déjà tout à fait participer. Voilà, les réactions d'équilibration qui sont là, hein, et qui font que l'enfant voilà, se déploie à des moments comme ça. Et en plus, l'écoute de l'eau nous rappelle des choses, évidemment. Hein, c'est réagir par rapport à cet aspect instable. Alors, oui, alors on peut avoir une langue chauffante au-dessus, tout à fait, qui maintient de toute façon la température est assez importante dans cette partie du centre. Et en effet, en nous, la chauffe elle-même, elle est préchauffée éventuellement par un chauffage au-dessus avant, pour rester à une bonne température. Voilà, alors je reviens sur les résultats de notre étude qui s'est déroulée donc au CHU de Poitiers avec des collaborateurs de Léonguiot, Boussier, et Bernard Bols. Nous avons donc mis en place une étude randomisée pour montrer les effets du massage en se basant sur une seule étude qui existe aux États-Unis. Il n'y a aucune étude randomisée en France en dehors de celle-là qui montre les bienfaits du massage, encore de l'huile qui est tout à fait originale. Donc les études montraient déjà un gap pondéral aux États-Unis. Alors on dit le massage c'est bien, le toucher c'est bien, mais personne n'a montré le bienfait. Et encore moins avec l'huile, puisque nous avions l'habitude d'utiliser l'huile d'amande douce dans les centres, et puis voir tout doucement l'huile isiocate que nous utilisions discrètement parce qu'elle était riche en acide gras. Et par manque d'huile d'amande douce, de temps en temps, on mettait l'huile isiocate sans dire vraiment aux parents. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais bon, l'intérêt du toucher, finalement, on ne l'a pas vraiment démontré, et encore moins l'huile en elle-même. L'intérêt de l'huile avec le toucher ou l'huile toute seule, on ne sait pas vraiment ses effets. Et l'huile isiocate sur le corps, de l'enfant qui nous dit qu'il n'a pas d'effet secondaire. Ce n'est pas très éthique de continuer comme ça sans le montrer. Voilà pourquoi ça a motivé aussi notre étude. Et puis, il y a eu des applications cutanées isolées d'huile pour montrer l'importance des acides gras essentiels sur les symptômes cutanés, aussi sur une meilleure croissance somatique de façon isolée, mais pas liée avec le toucher. Alors, sur notre étude en elle-même, je passe sur l'huile de la façon qu'elle est proposée, simplement qu'elle est très riche en acides gras, l'huile d'isocate, et l'huile en mange un peu moins, avec surtout pour l'isocate aussi une proposition ortalgique plus importante. Notre protocole a considéré les prématurés entre 31 et 34 semaines. Nous avons pris les données des râles, taille, poids, etc., apport calorique, glucidique, etc., au niveau quotidien. Et puis, nous avons regardé en pré-test et post-test des analyses de sang, d'insuline, acide gras pré-post-test, examen neurologique et psychomoteur pré-post-test, dermatologique, cornéométrie et la déshydratation qui a été regardée, la déformation, et puis le toucher qui a été pratiqué le matin et l'après-midi, deux fois, 15 minutes, avec trois groupes massés, touchés avec l'huile isocate ou l'huile d'amandouce ou un placebo, qui est le sérum physiologique, et puis un groupe témoin. Comme ça, ça nous a permis de voir l'effet des huiles, l'effet du toucher de l'huile, et puis l'effet sans huile ou sans toucher. On a regardé aussi les fréquences, bien sûr, cardiaques, respiratoires. Alors, ce que l'on voit dans les résultats, le gain pondéral tout à fait intéressant, des groupes stimulés, que ce soit avec l'huile d'amandouce, l'isocate ou le placebo. Le fait de toucher, de stimuler l'enfant, engendre un gain pondéral tout à fait intéressant pour retrouver dans les autres études américaines. On a un gain plus intéressant pour Isio comparé au groupe témoin significatif. En moyenne, le groupe témoin doit gagner 192 grammes et le groupe Isio gagne plus de 350 grammes. Donc significatif pour Isio. Et si on regarde les effets du toucher en lui-même, donc toucher quelle que soit l'huile, par rapport au groupe témoin, notre étude met en évidence un gain pondéral significatif, comme je l'ai dit pour Isio, l'augmentation aussi de la taille du prématuré, significativement, la durée d'hospitalisation qu'on retrouve aussi plus courte, vous voyez 27 jours en moyenne comparé à 42 jours pour les témoins, et l'augmentation aussi de la saturation d'oxygène et la diminution du rythme cardiaque qui est aussi en absence de stress, tout à fait intéressant dans l'apport du toucher pendant ce toucher, et la diminution de la température. Donc on a des variables tout à fait intéressantes qui manifestent un intérêt par rapport au développement de ces enfants. Et sur le plan psychomoteur, on va retrouver aussi une évolution, bien sûr, pour tous les enfants, ce qui est normal, nous sommes en développement, mais plus significative pour les groupes stimulés. On va voir Isio qui répond significativement par rapport au groupe sur toutes les variables qu'on va regarder, l'oculomotricité, l'attention soutenue, l'état d'éveil, la neuromotricité du bébé, est tout à fait intéressant pour les groupes stimulés, mais particulièrement pour Isio 4. Par rapport à amandouce. Et sur la maturation, vous voyez, quand on compare par rapport au groupe témoin, amandouce témoin, isio témoin, placebo, on voit que c'est isio qui ressort surtout avec une note tout à fait significative sur tout ce qui est la participation visuelle, l'éveil calme, et la neuromotricité pour tous les groupes est tout à fait aussi intéressante, mais particulièrement les scores sont plus intéressants pour l'éveil calme avec isio. On a de plus, dans les autres variables que nous avons examinées, une diminution des pathologies dermatologiques avec un effet de l'huile, hein, puisque l'huile isio pour ce qui est des squamations, elles disparaissent totalement, pas le cas de l'huile d'amandouce. Par contre, l'hydratation cutanée touche les deux huiles. On a une bonne hydratation cutanée qui est augmentée avec les deux huiles et l'effet de toucher. Une augmentation de l'insuline qui montre que c'est que pour le placebo, qui montre l'effet du toucher seul. Donc, le toucher en lui-même sans l'huile augmente l'insuline. Et on voit aussi une augmentation des visites parentales pour les groupes massés, stimulés par rapport au groupe témoin. C'est ça qui est intéressant. On a 69% par rapport au groupe témoin qui vient seulement que les parents viennent seulement le week-end. Et c'est peut-être parce que l'enfant, au fur et à mesure qu'il est touché chaque jour, se développe, est plus en interaction, attire plus le parent peut-être, et il vient le visiter un peu plus souvent, qu'il a un meilleur investissement et une interaction avec l'enfant. En tout cas, ça a un effet significatif. Alors nos hypothèses, il y a une modification de la barrière cutanée qui est à l'huile, qui entraîne une baisse de la dépense énergétique, et donc un gain de poids. Hein, le toucher agit sur le métabolisme énergétique, en diminuant le stress, on l'a vu par les données. L'huile isocate est plus riche en acides gras essentiels et en vitamineux, alors ça peut agir sur le plan dermatologique, particulièrement. Bien sûr, les deux huiles agissent sur l'hydratation, comme je l'ai dit, et particulièrement l'huile isocate sur l'éveil. Nos résultats aussi permettent de supposer un mécanisme d'action particulier qu'on ne peut pas bien identifier dans cette étude, qui implique un mécanisme neuro-endocrinien qui entraîne une stimulation du système sympathique. Et puis, les stimulations à travers la méthode du toucher, neuro-sensorimotrice, activent le follicule supérieur, qui a un lien avec le tonus postural, les saphères oculaires. Alors, tout ça allié avec l'huile, en plus, enrichit encore les réponses de l'enfant et son adaptation par rapport à sa motricité. Donc, à côté de ces bénéfices tout à fait intéressants, nous n'avons relevé aucun effet indésirable sur les conséquences avec les huiles ou quoi que ce soit, sauf que les électrodes sont peut-être approchées moins à la fin, après un toucher. Ce sont des résultats tout à fait favorables sur le devenir du nouveau-né prématuré, avec une méthode spécifique donc en multimodalité. Et de l'huile végétale, en particulier isocale, qui a tout à fait été intéressante sur ses apports. Et ça contribue donc à améliorer la qualité des pratiques de soins développementaux en période néonatale. Je vous remercie de votre attention.